Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 62e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre petite sélection de l'actu. Salut Caf.
Salut Fasquille.
Ça va bien?
Bah écoute, impeccable, très très bien. Je t'expliquerai à quel point je vais bien en fin de podcast. tu verras. Il faut en garder un petit peu, tu vois, pour la fin, histoire de se détendre. Mais pour l'instant, tout va bien.
Et on va commencer en souhaitant la bienvenue à nos nouveaux auditeurs qui nous reviennent via Spotify, puisque bah ça y est, depuis cette semaine, on est sur la plateforme de streaming.
Oui.
Une décision qui a fait grincer des dents un petit peu quand même. Hein.
C'est marrant, hein, c'est bizarre. Alors, on va être très clair, hein, ça rapporte pas d'argent ni à Spotify ni à nous, hein, comme d'habitude j'ai envie de dire, c'est juste un moyen supplémentaire pour vous d'avoir, si vous écoutez que du Spotify et que ça vous saoule d'avoir une appli de podcast, et ben, du coup vous avez accès directement à tous nos podcasts via cette application, via leur petit service. Le truc c'est que pour nous ça change pas grand chose en termes de workflow, c'est pas chiant comme de mettre par exemple les émissions sur YouTube, ou ça par contre je pense qu'on ne le fera jamais parce que ça vraiment ça nous saoule, et puis en plus je trouve pas ça pratique, bref, du coup là vous inquiétez pas, hein, ça change rien et c'est pas plus loqué entre guillemets que peut l'être nos petits flux RSS à la merci de la découverte Apple sur iTunes, donc ça vaut pas le coup de vous énerver, c'est vraiment ça change rien pour vous si vous utilisez déjà une application de podcast, et si vous utilisez Spotify bah, c'est plus simple, donc voilà, il n'y a absolument pas mort d'homme, calmez-vous tous.
Voilà, puis on précise aussi que c'est toujours en bêta, hein, donc bah, c'est pas impossible qu'il y ait encore quelques petits couacs, mais on voulait tester, hein, on va dire que c'est plutôt pour voilà. Ça, en fait, on voulait aller voir un peu ce que ça changeait pour nous en termes d'audience, et puis du coup, bah, si vous nous avez découvert via Spotify, on vous rappelle que derrière ces podcasts, il y a un site qui s'appelle geekzone.fr, et qu'on a un Patreon, si vous voulez nous aider financièrement à continuer à produire du contenu de qualité, bah, vous pouvez aller sur la homepage de geekzone.fr, il y a un lien vers le Patreon, et bah, voilà, comme ça vous pouvez mettre la main à la poche si ça vous tente.
D'ailleurs, en parlant de trucs en bêta, je voulais juste finir sur nos amis de chez Plex qui n'ont toujours pas trouvé la bonne icône, hein, pour afficher nos podcasts. J'ai envoyé des messages sur leur forum et les mecs, apparemment, c'est hyper compliqué de faire un parsing complet de feed RSS de podcast. Donc, voilà, Plex aussi. Je crois, je suis même plus s'ils sont officiellement encore en bêta sur les podcasts. Mais en tout cas, ça me marche, ça fonctionne, vous pouvez nous écouter, mais c'est moche. Et pour l'instant, on n'y pleut rien. Voilà.
On attaque le gaming avec notre jeu préféré de tous les temps.
Ah bah oui, celui qui nous fait rêver jusqu'à la fin du monde, puisqu'il ne sortira jamais, donc il peut que nous faire rêver.
C'est pas vrai, il est sorti en fait, mais pas vraiment.
Mais ouais, mais en alpha, mais tu comprends, mais vraiment, vous êtes trop médisants. Donc on parle de qui? On parle de Star Citizen, évidemment, puisque c'est la CitizenCon cette semaine, où nous
pas
avons... Non, pas de jeu de mots, hein, pas de jeu de mots, puisque nous, notre jeu de mots, on essaie de le faire avec Pigeon plutôt qu'on parle de Star Citizen. Nous avons vu des trucs extraordinaires, puisque nous avons fait l'effort de regarder... parfois le stream de la présentation de notre ami Chris Roberts sur des sites de fans français.
Ouais, c'était
et
drôle.
Et waouh.
J'ai entendu des trucs énormes comme c'est en train de révolutionner le jeu vidéo, enfin des
fabuleux,
trucs,
voilà. Fabuleux, un mec hyper content de prendre le métro virtuellement et d'attendre 5 minutes entre chaque rame, puisque nous vous rappelons que Chris Roberts est obnubilé par la simulation complète de son petit monde alors qu'il n'est pas capable de faire voler un putain de vaisseau spatial après 200 millions de dollars et 7 ans de développement. Quand je dis il n'est pas capable de faire voler un vaisseau spatial, c'est que le modèle de vol est une catastrophe. C'est de la merde et c'est le cœur du jeu. Donc c'est un problème quand même à la base. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'ils ont perdu le mec qui développe le modèle de vol depuis 2013. Il est parti ou il a été viré, on ne sait pas. En tout cas, il s'est passé un truc. Déjà, il était tout seul. Ce qui, sur un jeu où tu fais voler des vaisseaux spatiaux, est un petit peu, comment dirais-je, dangereux, compliqué, critique. Ça me paraît ahurissant. Et le nouveau venu qui reprend le truc, apparemment, à le niveau d'un script qui dit troisième. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué puisque le mec n'a vraiment rien sur son CV, hein, qui indique que le mec va gérer ça ultra bien et va tout mettre à plat. Donc, il est temps de s'inquiéter, mais j'ai envie de dire, il est plus que temps.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça va pas nous rassurer, mais en même temps, voilà, on n'avait pas vraiment besoin d'être rassuré, entre guillemets.
Non, donc c'est incroyable. Alors, ce qui était génial, c'est que vraiment, moi, quand j'ai regardé le stream, et je suis désolé, je suis obligé de rentrer dedans, mais les seuls mecs avec qui j'ai ce genre de discussion dans le jeu vidéo, il y en a pas, en fait, hein. Je suis obligé d'aller voir les gens qui sont anti-vax, qui sont pour l'homéopathie ou surtout. voilà, c'est, mais si ça soigne, je vous jure, et ben là c'est pareil, les mecs tu peux leur opposer n'importe quel argument, ils sont partis, ils sont loin, il n'y a aucun raisonnement logique, tout est normal. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Alors, moi, je
vais essayer. C'est leur argent en même temps.
Donc. C'est leur argent, très bien. Allez, 330€ pour un truc qui n'existe pas, génial. Non, mais les mecs, enfin, ils s'écoutent même pas hein, quand ils balancent ce genre de conneries. C'est incroyable. Le truc qui m'a fait halluciner, donc, c'est que pendant la démo, ils montrent un nouveau vaisseau qui d'ailleurs n'était pas vraiment annoncé, qui n'est pas sur les charts, les maps. Donc, c'était le reveal, tu vois. Grosse surprise, énorme vaisseau Capital Ship de la mort et tout, qui coûte dans les 20 millions, ok, d'accord. Les mecs revenaient pendant la démo d'un truc d'une demi-heure, donc bon, peut-être qu'on peut le faire en 20 minutes, peut-être en 15, mais qui rapportait 4000 crédits. Et donc, je me suis dit, oui, on peut acheter les vaisseaux dans le jeu, apparemment, avec la méthode, mais ça ira plus vite si vous prenez un emprunt avec des vrais dollars. Parce que pour l'instant, le modèle économique a l'air compliqué, mais en même temps, il n'y a pas de modèle économique, puisqu'il n'y a pas de jeu. Je vous rappelle que l'année dernière, ils nous présentaient les villes procédurales sur les planètes qui n'ont pas vraiment été présentées cette année.
C'est ça.
Qu'on n'a pas vu. En fait, d'une année sur l'autre, ils présentent des trucs qui disparaissent. Et les mecs n'en reparlent jamais. Et
c'est
personne...
du vaporware à répétition.
Mais c'est fabuleux. Donc, bon, vous vraiment vous rassurer et vous faire du bien, vous pouvez mater le trailer de Squadron 42. Là, vous allez comprendre où sont passés les 200 millions, hein, puisque vous allez voir toutes les gueules des acteurs qui sont hyper connus, qui sont dans ce trailer d'une mollesse incroyable. Donc c'est censé être un trailer genre qui te fait, tu vois, qui te fait monter la hype là. Bah tu t'endors devant et la blague c'est que nos amis de chez, enfin nos acteurs hollywoodiens adorés, dont Cavill par exemple, hein, notre ami Superman, a balancé un petit tweet genre mais non, faut pas dire que c'est loin et tout. C'est comment il a dit ça? Il a dit est-ce que vous le voulez maintenant ou est-ce que vous le voulez fantastique? Tu vois, c'est ça le truc.
C'est mignon. Quand même, c'est la tagline du projet depuis quoi, 150 ans maintenant.
C'est un truc de ouf. Donc voilà, régalez-vous, allez voir les trailers. On vous mettra les petits liens dans la news qui accompagne le podcast. J'ai pas les mots si vous voulez parce que quelque part il y a 3 ans. Attention disclaimer, je suis backer du truc. j'ai 40 balles dans l'histoire. Il y a des mecs qui ont 40 000€ je pense. Donc on parle pas sur au même level. Mais j'ai fait une croix sur cet argent, tu vois. Cet argent, je m'en fous. Et pour info, j'ai un compte spécial où je peux tester quasiment tous les vaisseaux du jeu en permanence. Et waouh. Pour l'instant, je peux vous dire que c'est un peu compliqué quand même. Hein, et c'est dramatique. Donc, si vous avez, bon, je crois qu'il est impossible maintenant de se faire rembourser ou alors c'est très très compliqué. Donc, si vous vouliez récupérer votre fric, c'est trop tard. Mais on va continuer de suivre ça avec, comment dirais-je, passion.
Et puis, si vous êtes fan du jeu, n'hésitez pas à venir nous taper dessus dans les forums. Nous, on aime bien ça, puis ça fait du lit. Donc,
c'est on a un thread qui fait quoi? 600, 700 messages sur une news qu'on a fait l'année dernière. J'ai même pas envie d'en refaire une parce que très honnêtement, ça me fatigue.
C'est ça.
Il s'est pas passé grand chose depuis. Et quand on explique que Chris Roberts et sa femme ont trouvé le meilleur moyen de jamais sortir un jeu en faisant du fric pendant toute leur vie, on se fait insulter. Mais quelque part, c'est magnifique, c'est drôle. Je pense qu'il nous faut un petit thread sur l'homéopathie. Parce qu'il faut qu'on fasse un truc, tu vois. Je pense qu'il est temps de relancer la machine sur le lit. Ouais, faisons du clic, allons-y.
Allez, on reste dans le gaming et on va parler d'un petit jeu pour le coup qui promettait pas grand-chose et qui lui livre, comme on dit.
Voilà.
Old School Musical.
Voilà, ça over-deliver.
Over-deliver.
en français dans le texte. C'est un petit jeu indé qui coûte 13€, les enfants, donc on est loin d'un truc qui n'est pas sorti et qui coûte plus cher, bref. Réalisé par une boîte de Frenchie. Alors apparemment, quand je dis une boîte de Frenchie, il y a surtout un mec aux commandes, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper. La boîte s'appelle La Moutarde.
J'aime bien.
Donc déjà, elle a gagné le jeu. Enfin, tu vois, là, déjà, j'aime le truc. Et c'est un rhythm game, donc un jeu où il faut appuyer sur des boutons en rythme en fonction de la musique et des petits trucs qui passent à l'écran. Et c'est un genre de jeu que je déteste. Ah, mais vraiment, ça m'emmerde au dernier degré. Et je l'ai fait parce que il est incroyable. Alors pourquoi il est incroyable? Si vous détestez les rhythm games comme moi, forcément, vous allez vous dire ok, t'abuses un peu. C'est pas faux. Ça va pas révolutionner le genre, mais c'est extrêmement drôle parce que pour les vieux schnocks dans mon genre, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez 50 chiptunes. Donc déjà toutes les musiques c'est de la chiptune. Premier point positif pour les vieux schnocks. Hein. On est là pour ça. Avec des guests qui sont super talentueux mais dont je ne connaissais pas forcément les noms. Mais il y a une musique par exemple qui s'appelle Major Nine par un certain Hiponeko qui défonce grave. Et c'est quand vous achetez le pack, vous pouvez acheter un petit peu plus cher pour avoir l'OST avec des MP3. Mais vous envoyez un petit mail, il vous envoie les OGG ou même les Wave, je crois d'ailleurs, si vous aimez vraiment perdre de la place. Tout ça est dispo et surtout le truc est mais bourré de références rigolotes, pas comme un certain film, de jeux vidéo. Donc, vous avez un story mode de 20 levels, plus après des modes défis, du multijoueur, etc., qui va vous expliquer les aventures de Tib et Drob. Tib, je crois que c'est Bit, en fait. Hein, donc, c'est des petits personnages carrés, il leur arrive des misères, je ne vais rien vous dévoiler, mais dans chaque level, en gros, vous êtes téléporté dans des références, des hommages à des jeux vidéo divers et variés, avec des trucs très drôles. Donc il y a une news qui est parue hier soir tard, hein, parce que je l'ai pas écrite au moment où j'enregistre le podcast, qui n'est pas bon signe, pour parler de ce titre, mais dedans il y a des screenshots où vous allez vous marrer, puisque les mecs reprennent genre les costumes de Quiet de Metal Gear Solid sur un pixel bizarre. Je vous confirme qu'il est censé être un mec, ça fait bizarre, et c'est assez drôle, et il y a plein de références sans arrêt. Vous partez dans les égouts, là tu te fais ok, on va se faire envoyer dans le monde des tortues ninja, gagné. Il y a plein de trucs, et plus vous avez de référence dans le jeu vidéo, plus vous jouez depuis longtemps, plus vous allez trouver le truc rigolo. Par contre, si vous jouez en difficile, faut vraiment aimer les rhythm games, parce que je pense que la manette va voler à travers l'écran assez vite. Mais bon, ça coûte 13 balles, c'est hyper drôle, c'est très bien réalisé, faites-vous plaisir. Il y a une version Switch qui, à mon avis, moi j'y ai joué sur la version Steam, à mon avis la version Switch est encore supérieure, comme on dit, parce que vous pouvez y jouer vautré dans votre canapé avec un casque, et je pense que là on a l'expérience ultime du jeu.
Bah moi j'y ai joué hier soir juste pour voir un peu de quoi il en retournait, et j'ai beaucoup ri au tutoriel. Alors sans vous spoiler le reste de l'histoire, hein, juste le tuto parce que c'est très drôle. Donc on vous apprend les rudiments du jeu, hein, donc on vous dit voilà, t'appuies sur la flèche de droite plusieurs fois en rythme et tout, puis la flèche de gauche, tout ça est très papy, très cool. Et puis à la fin du tuto, le perso vous dit bon bah maintenant on va tester un peu pour voir si t'as bien tout compris, et il vous balance une séquence mais improbable, juste impossible à faire sauf si vous êtes un poulpe, et ça réveille tout à coup. J'ai trouvé ça super drôle, donc voilà.
C'est ça, et tout le jeu est comme ça, hein. C'est, il y a vraiment à chaque fois des petits trucs qui vous prennent à revers, et c'est très très bien foutu, bravo.
Donc Old School Musical, vous irez voir la news donc que tu vas aller écrire tout à l'heure.
Exactement, ouais. Je vais le faire, c'est promis, oui. Et si elle est pas sur le site demain, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires du podcast, hein. Ça, voilà, ça ne changera rien.
On n'y manquera pas. On passe du côté des apps en vitesse. Je voulais vous parler de Via. Je connaissais pas du tout, en fait. C'est un petit browser. Voilà, c'est un petit browser pour Android qui est développé a priori par un petit mec tout seul dans son coin en Chine. Et oula. C'est un browser. Oui, alors voilà, ça, c'est le oula. On va mettre le oula sur le côté chinois. Mais bon, a priori, c'est un petit dev tout seul dans son coin, donc je doute qu'il ait des velléités de venir piquer vos données personnelles. En tout cas, l'optique du browser, c'est vraiment d'être léger et rapide. Et sur ces deux points, on peut vraiment rien lui enlever. Il est vraiment super efficace. Je l'ai testé hier sur mon vieux téléphone et ça marche vraiment très très bien. C'est super véloce. C'est basé sur Chromium WebView, donc là de ce côté-là, rien d'inconnu et rien de nouveau.
Tout classique.
Voilà. Et c'est une interface minimaliste avec néanmoins toutes les fonctionnalités dont on a besoin dans un browser qui sont disponibles donc via une barre d'outils qui est en bas du browser. Il y a un mode de nuit, il y a un système de bookmark, une historique, un système de téléchargement, il y a un mode incognito pour ceux qui veulent surfer en secret. On peut même partager les infos assez facilement via le browser, et on peut aussi changer le user agent pour ceux qui font du dev. C'est plutôt intéressant.
Et quand il y a un site qui vous emmerde et qui
voilà,
vous
par exemple. Et tout ça tient donc sans pub et sur à peine 2 mégaoctets. Donc voilà, si vous avez un vieux téléphone un peu qui a un peu du mal avec les browsers contemporains comme Firefox, n'hésitez pas à les tester via. C'est plutôt sympa. Il y a un système aussi qui permet de vider automatiquement l'historique et les cookies en sortie du browser. Donc ça, c'est plutôt chouette pour les gens qui veulent par exemple juste aller surfer sur un truc en incognito et puis virer tous les résidus de surf une fois qu'ils ont fermé le browser. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je sais pas si t'as eu l'occasion de l'essayer toi de ton côté.
Voilà. Alors, je l'ai testé sur un vieux Nexus 5 cordage qui n'est plus supporté par environ rien, mais qui est toujours aussi beau, aussi orange. Je l'aime d'amour, ce téléphone. C'est un de mes téléphones Android préférés, et ça me fonctionne très très bien, et comparé à d'autres trucs qui sont plus modernes mais un peu plus lourdingues forcément, ça fait du bien. Et je voulais juste préciser que dans le genre truc super utile pour avoir un browser qui ne laisse aucune trace, si vous êtes du côté iOS, vous pouvez regarder iCab Mobile. C'est pas du tout aussi bien foutu et c'est surtout très payant, mais ça permet de naviguer sans laisser de traces automatiquement, sans aller vider quoi que ce soit derrière en fonction des settings que vous avez mis. C'est pas mal, mais du coup via c'est le genre d'outil qu'on n'aura pratiquement jamais jamais sur iOS, parce qu'on m'a demandé, oui, mais pourquoi sur iOS? J'ai vu passer le message sur Geekzone. C'est parce que je vous rappelle que sur iOS, déjà, c'est Safari Only, c'est la WebView de WebKit, pardon, Only pour n'importe quel navigateur. Même quand vous êtes sur Chrome iOS, bah, en fait, vous utilisez les mêmes routines, le même moteur de rendu que Safari, et tous les navigateurs sont obligés de passer par là, pour des raisons de sécurité et de Walled Garden, de petits jardins avec les grosses barrières autour. C'est comme ça que ça fonctionne, via et d'une manière générale, les browsers qui veulent expérimenter des trucs sur Android sont beaucoup plus libres de se lâcher, et c'est plutôt pas mal. Donc si vous voulez un petit truc qui change un peu, via ça se tente effectivement.
Voilà, il y a une petite news cette semaine donc sur Geekzone, avec les liens qui vont bien vers Google Play, vers le site officiel et également vers la page GitHub, pour ceux qui veulent aller jeter un œil dans le code. On va passer du côté de la culture après Facebook, avec Facebook Watch. Je sais pas si t'avais entendu parler de ça.
Non.
Ok.
Si, en fait, si, mais je voulais voir ta réaction.
Donc Facebook Watch, c'est donc la volonté de Facebook de produire du contenu des séries télé. Il y a notamment une série qui s'appelle Sorry for Your Loss, avec Elisabeth Olsen, qui est plutôt pas mal, qui traite du deuil. Snapchat s'y met aussi, en fait. Il se lance dans la production de contenu original. Alors on sait que Snapchat jusqu'ici avait un système qui s'appelait Snapchat Shows, qui reprenait donc en fait du contenu, essentiellement du contenu à vocation publicitaire, hein, qui était produit par d'autres médias. Là, il se lance carrément dans la production de contenu propre. Alors, c'est là que ça va faire grincer un peu des dents. C'est que ça va être donc forcément adapté au téléphone, donc ce sera de la vue verticale.
Ouais,
avec des épisodes relativement courts, des séries relativement courtes aussi, de 8 à 12 épisodes. Et tout ça sera donc c'est réalisé au quotidien, donc on aura un épisode tous les jours. Pour le moment, il n'y a pas énormément d'infos sur les gens qui vont participer à tout ça. Je vous linkerai un papier de Variety qui développe un peu plus en détail tout ce qui se prépare du côté de Snapchat par rapport justement à Snapchat Shows, qui va être un vrai problème à prononcer.
Je crois qu'il faut qu'il change le nom déjà.
Voilà, exactement. Et donc, à son tour, donc Snapchat décide de se lancer dans la production de contenu original. On peut pas encore vraiment juger de la qualité. Je sais qu'il y a des trucs qui sont déjà sortis depuis 2 ou 3 jours, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir. Donc on ira jeter un œil, on verra ce que ça vaut et si ça vaut vraiment la peine. Bon, on vous en reparlera sur Geekzone, mais je voulais quand même vous mentionner l'initiative.
Et moi, je voulais vous reparler de Plex, là où je t'avais parlé la
encore
semaine dernière. Ben ouais, parce que Plex, il faut en parler de temps en temps quand ils font de la merde. J'avais parlé de leur web-série, de leur série web directement disponible dans Plex la semaine dernière. Je voulais juste vous dire que j'avais testé depuis, mm-hmm, et que comme prévu pour l'instant, c'est un peu du sous YouTube, oui, on peut le dire comme ça, mal classé, et que ça ne fait pas rêver. Donc toutes les annonces à base de trucs web bizarres, je me méfie maintenant.
D'accord. Donc c'est pas encore ça.
Non.
Nouvelle plateforme de streaming en arrivée, oui, encore une. Alors elle s'appelle Quibi ou Quibi, je sais pas comment on prononce. Tous les médias anglophones se moquent du nom pour le moment. Là aussi, c'est orienté sur des formats a priori courts. C'est un service de streaming qui a été lancé en fait par un ancien de Disney et un ancien de DreamWorks, en l'occurrence Jeffrey Katzenberg, qu'on connaît bien, et Meg Whitman.
Oui.
Donc eux, c'est vraiment du contenu de petite durée, on va dire, mais ils ont été récupérés des réals plutôt sympas pour produire leur première série, puisqu'on parle notamment de Jason Blum, Antoine Fuqua qui avait fait The Equalizer, je sais pas si tu as vu cet excellent film d'action, avec Denzel Washington. On parle également de Guillermo del Toro qui bosserait pour le moment sur un projet ultra secret. Et puis il y a aussi Sam Raimi qui bosse sur un projet qui s'appelle 50 States of Fear, et qui est donc une espèce de mise en avant du folklore effrayant dans chaque état des États-Unis. Donc ça peut être plutôt sympa. C'est des épisodes qui vont durer à peu près 10 minutes, et on parle d'une durée totale pour ces séries de 2 à 4 heures. Donc ça va être relativement court et ça pourra se binge-watcher assez facilement. Pas d'autres infos pour le moment, notamment sur la disponibilité chez nous, mais on va garder un œil dessus. Là aussi, je vous linkerai un papier de Slash Film qui parle du projet, pour avoir un petit peu plus d'infos. Et si jamais on découvre que ça va être diffusé chez nous, on en reparlera bien sûr avec les tarifs qui vont bien. Et puis dernière info culture, je voulais vous parler du transfuge James Gunn, qui après s'être fait salement viré par Disney, et non par Marvel comme j'ai pu le lire un peu partout. C'est pas Marvel qui l'a viré, c'est Disney. Marvel a essayé de le récupérer, en revanche. Ça n'a pas marché, malheureusement. On savait qu'il avait été très, très rapidement courtisé par plein, plein de studios et notamment par la Warner qui produit les films DC. Ça a l'air de se concrétiser, puisque, il y a un papier sur Io9 qui laisse entendre qu'a priori, il serait en discussion pour le moment avec Warner pour reprendre le flambeau de Suicide Squad. Ce film qui avait été produit et réalisé par David Ayer, le premier, qui avait été plutôt décevant et qui avait été charcuté au montage et ce qui en avait
plutôt
fait un truc
décevant.
Un peu indigeste.
Oh, t'es gentil. Quand... J'aime bien quand tu dis gentil. Plutôt. C'était un étron. c'était une purge.
La bande-annonce était bien.
Ouais, voilà. Ok, super.
Donc, a priori, la Warner aurait offert à James Gunn la possibilité non seulement d'écrire le prochain Suicide Squad, mais aussi la possibilité de le réaliser. Et on parle en VO dans le texte d'une new take, donc une nouvelle prise. Je sais pas comment on traduit ça en français. Enfin, une nouvelle vision.
Un presque reboot.
Voilà, j'ai envie de dire un soft reboot. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Personnellement, si on pouvait se débarrasser de Will Smith, qui a quand même bien plombé le premier film, ça m'arrangerait. Mais donc voilà, on va suivre ça de très près. C'est pas encore officialisé, mais en tout cas, les discussions, elles sont officielles. On sait que pour le moment, ils sont en train de parler gros sous entre James Gunn et Warner. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Si ça se fait, on pourra dire bravo Disney. Merci. Comme ça, on aura peut-être des films bien des deux côtés. Moi, ça me dérange pas. Il y a plein de héros que j'aime bien chez DC.
Oui, tout le monde versait des larmes hier quand on a appris ça. Et puis moi, franchement, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on peut enfin avoir un bon film chez DC, ça serait plutôt cool.
Bah ouais, je sais pas. Alors, c'est pas du tout sur la conduite, mais est-ce que t'as regardé le trailer d'Aquaman de 7 minutes?
Oh mon dieu, non, j'ai pas vu. Et alors?
Déjà, le concept du trailer de 7 minutes.
Ça sent le film qu'on a du mal à vendre. Hein.
Ça fait 6 minutes et quelques, c'est un truc de ouf. Et écoute, moi j'aime bien Jason. J'aime bien Jason Gropek Momoa. Donc.
Bah écoute, c'est James Wan en plus. Donc James Wan, il a fait des trucs vraiment chouettes. Moi j'aime beaucoup sa carrière en tant que réalisateur en tout cas. Donc si on lui a filé un bon scénar, pourquoi pas quoi.
J'ai envie de dire que sur ces 6 minutes, c'était un peu cringe, mais j'ai vu tellement pire que j'ai envie d'y croire. mais je pense que ça va... Les effets spéciaux, il y a des séquences qui franchement sont pas mal, en tout cas sur le trailer. Mais comment dirais-je, sur l'ampleur, le problème chez DC, c'est le scénar et le déroulé du scénar.
C'est ça. Et sur le troisième acte qui fait souvent défaut. Ouais.
Voilà. Et du coup, j'attends de voir ça. Mais écoute, sur 7 minutes, t'as pas complètement envie de t'enfuir pour un truc d'ici. C'est déjà pas mal. Même, quoi. Bah ouais, mais tu sais, moi, je mets la barre assez bas avec les trucs d'ici. Je suis vraiment hyper tolérant et pff, c'est
et
dur.
Quoi, c'est officiel ou bien c'est un livre?
Non, c'est super officiel. Okay. J'ai pas, tout le monde était en train de se demander, mais un trailer de 7 minutes, vous déconnez les mecs ou quoi? Et non, a priori, ça serait un remontage ou carrément peut-être la séquence qui avait été montrée à la Comic-Con l'année dernière ou cette année, puisque le truc est hyper avancé. Hein, les effets spéciaux sont nickels, donc je pense que c'était peut-être assez récent. Du coup, je ne sais pas exactement d'où ça sort. Je vous avoue que j'ai pas creusé. Hein, j'en parle comme ça sur un coup de tête parce que je l'ai regardé hier et j'étais en mode genre, ok, what the fuck. et c'est du DC presque potable, en tout cas quand tu regardes le truc vite fait. Maintenant je vais peut-être regretter ces paroles amèrement quand le truc va sortir, hein.
On viendra réécouter, ouais.
Voilà, donc moi vous tout ce que je viens de dire vous avec des grosses pincettes les mecs, hein. Ok, merci.
On vous linkera le trailer, donc ce fameux trailer de 7 minutes dans la conduite aussi. Et mais cela dit, ça me fait penser, souviens-toi Firefly, enfin Serenity, le film tiré de la série Firefly, on avait eu droit à 10 minutes, enfin on avait eu droit aux 10 premières minutes du film
exact
quelques semaines avant la sortie du film. En général, c'est des films sur lesquels ils sont un peu méfiants, ils se disent que
ça part
que ça va pas,
quoi.
Marcher, voilà. Donc du coup, on en donne un peu plus. Donc pourquoi
pas. Mais venez.
On passe du côté de la tech et on reparle pour une dernière fois sans doute de Google Plus.
Non, pas pour la dernière fois, parce que c'est l'annonce du décès de Google Plus, ça y est. On y est. Mais la date n'est pas maintenant là tout de suite. C'est l'annonce du début de la fin.
Oui, et puis c'est que pour les utilisateurs. Je crois que le côté pro de Google Plus continue en fait, si j'ai bien compris.
Ouais, mais le côté pro qu'on ne voit jamais et voilà. Que pratiquement personne n'utilise, en tout cas France. Donc à mon avis, ça va aller vite. Donc voilà, l'annonce officielle, c'est que Google a décidé de tirer sur la prise de Google+, qui, comme je l'écris dans la conduite, va crever dans l'indifférence générale, et ça va crever en août prochain. La date de fermeture officielle, c'est le mois d'août, pour laisser le temps aux communautés qui utilisent ce truc de trouver un nouvel Eldorado, n'est-ce pas, qui va faire venir des millions de gens, comme Google+, bien sûr. La problématique, c'est qu'on se dit, c'est normal, ils ont vu que ça marchait pas, donc là, ils se sont dit, on va arrêter. Non,
c'est pire.
C'est pire que ça. En fait, il ferme parce qu'il y a un bug dans l'API qui est derrière ce Google Plus adoré, et que c'est pas un hack, hein, parce que j'ai lu aussi qu'il y avait eu, qu'il s'était fait hacker, que du coup ils allaient arrêter et tout. Non, c'est pas un hack, c'est un bug de l'API, donc du truc programmé par Google, qui est resté en place pendant environ 3 ans, que personne n'a vu, et tout le monde s'en foutait a priori. Ça fait rire quand on sait que Google, c'est les mecs qui sont derrière Project Zero, hein, qui balancent parfois des failles de sécurité chez leurs petits concurrents, alors même qu'ils n'ont pas prévenu les concurrents en question, ce qui est toujours hyper sympa.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, c'est un bug, mais qui aurait pu déboucher sur des grosses failles
de la SQ, quoi. Ouais, le truc qui les sauve, c'est que tout le monde s'en fout de Google Plus.
C'est ça.
Si ça avait été un truc hyper utilisé, c'était hyper grave. Mais peut-être qu'ils auraient vu le bug, ils l'auraient peut-être corrigé avant, c'est tu ça, vois. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Au final, on parle de 500 000 adresses mail dans la nature avec des photos de profil, des conneries dans le genre. Mais on n'en sait rien finalement, puisque en plus, ils ne gardent que 2 semaines de log, ce qui est totalement illégal dans plein de pays. Donc il est impossible de connaître l'impact précis du bug en question, et Google en plus l'a caché pendant super longtemps, un peu à la Uber, donc ils sont pas vraiment précipités pour en parler, tu vois. Donc ils ont juste dit, bon, finalement c'est vraiment la merde, on va le fermer, c'est bon, arrêtez de nous saouler. Mais il y a des actions en justice qui sont possibles, on parle de trucs qui se trament dans certains pays d'Europe en l'occurrence, tu vois, qui n'aiment pas trop être pris pour des cons. Ouais. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça va fermer. Donc je crois que la dernière communauté que je suivais sur Google Plus, c'était des mecs qui font des bureaux Linux de la mort, tu sais, qui passent plus de temps à customiser qu'à utiliser Linux.
De niche, donc. Hein.
Voilà, de niche. C'est le seul truc qui se met à jour encore dans tous les trucs auxquels je m'étais abonné au fil des ans. Et j'ai rigolé, puisque hier, j'ai eu une update de l'application Google Plus sur mon téléphone. Donc, je trouve ça... J'ai trouvé ça mignon. Tu vois, j'ai fait... Oh, il y a des mecs qui continuent de faire des updates.
On les a pas prévenus.
On leur a pas dit. Écoutez, voilà, je pense que vous êtes tous en train de verser une larme, hein, alors qu'on se rappelle encore avec émotion de Google Wave.
Et ouais.
Mais voilà, les bonnes idées chez Google, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'était pas une bonne idée en plus, et ça devait mourir il y a très très longtemps. C'est enfin l'heure.
On revient sur l'article incendiaire de nos amis et collègues de Bloomberg.
Ah, extraordinaire. Rappelez-vous, donc, l'histoire, c'est que chez Bloomberg, la semaine dernière, énorme papier qui a fait couler de l'encre numérique, et pas numérique du tout, partout dans la presse mondiale, sur ces méchants chinois qui implémentent des puces espionnes dans les serveurs de la terre entière.
Des puces de la taille d'un grain de riz, j'aime beaucoup l'anecdote.
Ah oui, ça. Le grain de riz. Alors, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ça puait du fion. Pour pas dire ça d'une manière plus polie, parce que cette histoire, elle était compliquée quand on connaît un petit peu la technique et ce qu'il faudrait vraiment pour non seulement hacker les serveurs, mais ensuite exporter les données en question vers d'autres destinations chinoises, a priori, puisque c'était un peu la thématique du papier. Et depuis, ils se font défoncer, les deux journalistes en question. Mais alors, quand je dis défoncer, c'est que déjà, toutes les sociétés impliquées nient mais tout ce qui est dans le papier, et quand je dis, vous allez vous dire, bah oui, bah s'ils ont le problème, ils vont le cacher. Non, les mecs, c'est pas comme ça que ça se passe. Si c'était vrai, il y aurait des enquêtes officielles, mais cachées, et ils auraient ce qu'on appelle des gag orders, c'est-à-dire l'ordre de fermer leur gueule, et ils feraient des gros no comment, ou des trucs du genre, tu vois, ils seraient hyper évasifs. Là, non, ils prennent point par point tous les trucs de l'article, et ils disent, ça c'est de la merde, ça c'est faux, ça c'est pas possible, ça on a vérifié, c'est pas vrai, et... Toutes les boîtes impliquées, de Apple à Amazon, en passant par Supermicro, sont en mode genre, mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis de conneries? Et tous les experts sont en train de sortir du bois pour dire, alors, effectivement, j'ai été interviewé par ces deux zozos il y a 2 ans qui ont essayé de me faire dire des trucs que je n'avais pas dit et que j'ai retrouvé dans l'article. Donc, on est bien dans un papier de
FUD.
C'est même plus du FUD, c'est de l'incompétence. C'est les mecs qui essayent de se faire mousser. Et la blague, c'est que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gars qui ont été regarder leur track record chez Bloomberg. Et qu'est-ce qu'ils avaient écrit précédemment? De la merde.
Ah bah tiens.
Bah oui, parce que c'est le plus simple dans ces cas-là. Tu regardes qui a écrit, tu regardes ce qu'ils ont fait. Et s'il a des grosses lunettes à monture noire, il y a un moyen que ça soit de la daube. Et bah là, du coup, bim, on est quand même sur des mecs qui écrivent n'importe quoi sur la sécurité depuis 2014, même un petit peu avant. Donc je pense que ça va faire gros pétard mouillé, et maintenant c'est génial puisque Bloomberg est directement rentré dans ma case, si c'est écrit chez eux je ne lis pas, ou alors pour rire. Bon, bravo Bloomberg déjà, hein, qui continue de défendre la story et qui continue de la défendre parfois avec des trucs, genre regardez sur ces prises réseau on a retrouvé des trucs, ça n'a rien à voir avec l'article, c'est-à-dire que c'est génial parce que c'est des histoires qui sont périphériques, qui n'ont absolument rien à voir avec le papier d'origine, qui sont des trucs qui ont été expliqués 1000 fois par d'autres experts sur d'autres sites, sur d'autres Magazine. Donc, du coup, toute cette histoire de trucs chinois est en train de prendre feu chez Bloomberg. Et donc, je peux officiellement vous dire aujourd'hui que c'est complètement faux. Moi, de mon petit bureau, moi, sans savoir appeler un seul mec, puisque quand vous recoupez toutes les histoires, il y a vraiment aucun moyen que ça tienne la route. J'attends juste de voir comment Bloomberg va sortir du truc pour pas passer pour des énormes tocards. Hein. Et je pense qu'à terme, s'ils continuent de faire bosser ces deux mecs-là, là, je crois qu'il n'y a plus rien à sauver chez eux.
On vous linkera un papier d'Ars Technica qui fait un peu le point là-dessus. On revient chez Microsoft pour parler du projet xCloud. C'est quoi ? C'est du streaming de jeux, c'est ça ?
Il y a eu un projet de streaming de jeux la semaine dernière annoncé chez Google. Tu sais comment ça se passe en tech. Dans ces cas-là, il faut absolument être sur le coup instantanément. Donc Microsoft a fait genre « Eh, moi aussi, monsieur ! Je suis dessus depuis hyper longtemps, je voulais pas qu'il en parle avant !» Bon, c'est raté. C'est raté, les mecs, hein, ils sont partis devant vous. Donc, vous avez le projet xCloud avec un petit X, un grand C, contrairement à ce que dit Ars Technica, qu'on vous linkera dans le papier qui accompagne ce podcast. Du coup, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la technologie de stream qui permet à nos petits amis de chez Microsoft de vous balancer des jeux directement sur leurs différents devices sans que vous ayez rien à installer. Je vais pas vous expliquer à chaque fois ce que c'est que le streaming de jeux vidéo. C'est du Netflix avec du jeu vidéo. Pas de trucs à installer, vous payez votre abonnement, vous avez un catalogue, vous lancez votre jeu, vous vous éclatez. La problématique, comme je l'expliquais la semaine dernière, c'est la bande passante qui est disponible chez vous, parce que même avec un ADSL de qualité, vous êtes un petit peu léger, et que pour fonctionner, il faut que les serveurs soient pas loin de chez vous, puisqu'il faut que la latence, entre le moment où vous appuyez sur un petit bouton sur votre manette, que ça parte sur Internet, que ça aille sur le serveur, que ça soit interprété et que ça revienne, et tout ça avec un flux vidéo, il faut que ça aille très très vite, sinon vous allez jeter la manette, vous allez dire qu'est-ce que c'est que cette grosse bouse.
Ouais, c'est ça, contrairement à Netflix, où il y a juste finalement du signal vidéo qui passe, là il faut qu'il y ait un temps de latence, comme tu le disais, voilà, pour que les informations que t'envoies de chez toi arrivent quand même dans un temps relativement restreint, histoire que ton perso lag pas comme un malade à l'écran.
Voilà, si vous avez une connexion de merde, déjà Netflix, ça vous agace quand vous faut attendre 3 secondes pour avoir le début de l'épisode. Alors déjà, quand vous savez le bordel que c'est derrière pour arriver à ça, c'est un truc de fou. Mais en jeu vidéo, c'est bien plus compliqué, évidemment. Donc il y a des boîtes qui bossent là-dessus depuis hyper longtemps. Il y en a qui sont mortes d'ailleurs, il y en a qui ont été rachetées. Sony a son propre truc dans son cartable. Donc voilà, c'est l'avenir, entre guillemets, du jeu vidéo, puisque tu enlèves tout ce qu'on appelle les éléments de friction, en fait, entre le joueur et le produit. On dit, tu payes tant, t'as accès à ça, t'as juste à appuyer ici, t'as plus d'installation, plus de problème de driver, plus de carte son. Tous les problèmes techniques sont déportés sur les serveurs, sur la machine de l'autre côté. Et tu peux jouer avec un téléphone, avec un PC pourri, avec un Mac. Incroyable. Donc du coup, c'est l'eldorado du jeu vidéo. Et surtout, vous êtes complètement captif du service. Les mecs sont ravis de vous avoir, vous êtes abonné, ils savent exactement combien ils vont gagner le mois prochain, ils n'ont pas de problématique de jeux vidéo à sortir. Puisque si tu veux continuer à jouer à tes jeux, il faut que tu payes ton abonnement. Donc pour eux, c'est parfait. Pour les joueurs, c'est comme Netflix, c'est comme Spotify, etc. Vous vous êtes fait chier à pirater du MP3 toute votre vie. Très bien, d'un coup Spotify sort, vous vous apercevez qu'en payant, c'est quand même vachement moins chiant et que vous perdez moins de temps. À terme, vous êtes même les gens qui hurlent en disant « oui, il est dématérialisé, blablabla ». Le jour où ça marche bien, vous allez voir que vous allez migrer en masse, et surtout les nouveaux joueurs qui ont jamais découvert le bonheur d'un driver de carte son qui fout tout en l'air. Ce qui m'arrive encore en 2018. Hein. Il faut le savoir. Il y a des trucs comme ça bien relous. Donc, je vous linkerai le papier. On vous parlera des trucs genre des expérimentations. Ars reparle des expérimentations de OnLive, qui était un des papys, un des premiers à avoir testé ce genre de truc. Évidemment, Microsoft serait très content de vous faire jouer à Halo sur votre Windows Phone. Pardon, c'est mort. ça n'arrivera jamais. Et du coup, ils reviennent surtout sur l'historique du projet et pourquoi Microsoft, je pense, est un petit peu dégoûté de s'être fait couper l'herbe sous le pied par Google la semaine dernière. Mais voilà, je pense qu'on va beaucoup parler de streaming de jeux vidéo sur les prochaines années. J'avais fait un podcast sur Gameblog sur comment sera le jeu vidéo dans 10 ans. J'avais déjà prévenu que la bande passante ne suivrait pas chez tout le monde. Je continue de dire que ça va être compliqué, mais il est évident que c'est l'avenir. Donc, habituez-vous parce qu'on y va.
Et on reparle, nos amis, de Twitter. Twitter.
Oh, oh, oh. Et on reparle surtout de la modération par les bots chez Twitter.
Un grand succès.
Ouais, alors ça, c'est tout petit truc, mais qui me fait beaucoup rire pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle, ça marche super bien en 2018. Ou le deep learning, comme on appelle ça, hein, parce que c'est de la fausse intelligence en vrai. Avec un mec qui fait des poèmes sur Elite à base de targoïdes et qui malencontreusement a utilisé le verbe kill, tuer.
Ah, je l'ai vu passer, ouais.
Voilà, dans son petit poème, et bim, qui se fait bannir de Twitter parce que pour incitation à la violence. Waouh! Waouh!
Ce n'est pas un épisode de Black Mirror, non, non.
C'est génial! Et là, vous allez vous dire, bah, ouais, ok, d'accord, très bien, mais pourquoi c'est important? C'est important parce que ça veut dire que vous faites une blague à un pote en ayant une phrase un peu à la con, vous pouvez vous faire bannir parce qu'il y a un bot qui est incapable d'interpréter ce que vous dites dans le contexte. Il y a plein d'exemples, en fait, comme ça, de gens pas très connus à qui c'est arrivé, donc du coup, c'est pas remonté en news, et c'est une catastrophe. Et moi, j'ai vécu un truc très drôle hier. Pour un compte professionnel, je balance un truc sur Instagram avec une vidéo 100% faite maison, avec une musique faite maison, et je me fais striker la vidéo. Ah et bon. Là, j'ai trouvé ça génial, et les mecs te disent « Mais non, parce que c'est une vidéo de drone d'un truc indien et tout, on est sûr. » Bah non, non. Alors les mecs te disent « Bah si t'es pas d'accord, clique sur le bouton là. » Bah je suis pas d'accord, clique, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je vous rassure, le truc est toujours banné. Hein. Donc c'est striké de chez striké. J'ai réussi à le récupérer. Donc en fait, ils ont remis la vidéo sur le compte, mais en vue privée. Et elle n'est toujours pas dispo quand tu mates le feed depuis l'extérieur. Et alors, encore plus drôle, tu peux la mater quand t'es chez toi. J'ai regardé avec des VPN. Elle est strikée particulièrement en France et aux US, par exemple, tu vois. Alors que la vidéo est soi-disant indienne. Instagram. Donc, voilà. La modération automatique, ça marche super bien. Les recours, bah, sont nuls, hein. Je veux dire, quand ça arrive, apparemment, c'est très compliqué.
Ouais, puis c'est super dissuasif. En plus, c'est genre, si tu veux porter plainte, fais gaffe, parce que si t'es pas dans ton droit, ça va te coûter super cher. En gros, c'est ce que dit YouTube. Ouais. Donc, j'imagine que ça doit être la même chose chez Twitter.
Ah ouais, Twitter. Alors, écoute, de toute façon, leur truc est tellement mal foutu que tu sais jamais exactement comment ça va se passer. Et chez Instagram, je te confirme, t'as un bouton et après, t'as pas de news. Hein. Donc, j'ai pas trouvé le truc genre, le bonjour, je voudrais parler un humain, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est génial, j'adore. C'est ce genre de truc qui me fait un peu flipper parce que t'as pas le contrôle de ton propre contenu, donc c'est génial. Un jour, on dira Star Citizen, c'est vraiment de la merde, ce qui nous arrive jamais, et on va se faire striker les podcasts parce que les mecs vont faire genre, ah bah non, vous avez dit que c'était pas bien alors qu'on n'a pas le droit parce que Chris Roberts, il a fait un chèque. Donc non, c'est juste super pénible et je déteste ce genre de truc sur lequel tu n'as pas du tout la main.
Alors, on vous linkera un papier d'Eurogamer sur ce sujet, et puis je voulais quand même que je vais lire ce que t'as marqué dans la conduite parce que tu veux nous parler donc de téléphone de chez Google et tu nous as écrit Pixel shit from Google.
Oui, mais non, en fait c'est vachement bien, mais alors Pixel shit parce qu'en fait dans les trucs de nos amis de chez Google, t'as les annonces des téléphones dont on a appris absolument rien puisque tout était leaké jusque, et on pouvait même les acheter avant l'annonce du téléphone à Singapour. Ah ouais, non, mais là ils ont fait assez fort, j'avoue, mais les téléphones sont hyper intéressants. Donc ce sont les Pixel 3 et Pixel 3 XL qui sont en présentation sur tous les sites tech de la Terre. Vous avez juste à taper Pixel et vous allez être inondé de liens pour mater de la vidéo en tout genre sur les deux modèles. Évidemment, comme l'année dernière, ils nous ont fait un Pixel, un gros Pixel, le Pixel 3 XL et un Pixel 3 normal. Pourquoi j'ai écrit Google Sheet? C'est pour tous les autres produits qui étaient annoncés en même temps qui ne font pas rêver. Voilà, qui sont même vraiment pas terribles. Je vais y revenir dans un instant. Je reste sur les téléphones deux secondes pour dire que si vous voulez acheter un téléphone Android de qualité en 2018, ils sont enfin disponibles en France. Le Pixel 3 coûte aux environs 800 balles. Le Pixel 3 XL aux environs de 900 dans les configurations de base. Oui, on est sur du téléphone à 1000 balles avec 128 gigas. Il n'y a pas de modèle à 256 gigas sur le XL. Je trouve ça incompréhensible sur des téléphones de ce prix. Merci Google. Donc bon, ça c'est un peu débile. Mais surtout sur le XL, ils ont fait un notch. Un notch comme sur les iPhone X, XS, enfin 10 et 10S, pardon, excusez-moi.
Et ça n'a toujours aucun sens, j'imagine.
Et ça n'a, mais c'est surtout que autant ils sont justifiés sur certains téléphones, même chez Android, où les mecs ont fait quand même un effort, ont intégré la caméra, etc. Là, le truc fait 15 km et, mais non, les mecs, vous pouviez faire beaucoup plus petit, vous pouviez faire beaucoup plus joli. En plus, il est moche, c'est-à-dire que c'est là où tu découvres que chez Apple, c'est quand même des ayatollahs du design qui sont graves, puisque même les courbes du truc sont pensées pour être super jolies, etc. Là, le truc, il est juste moche, en fait. Tu vois. Donc évidemment il y a déjà un patch, alors je crois qu'il est, je sais pas s'il est dispo, j'ai pas bien compris si on pouvait déjà le cacher tout de suite ou pas. Comme c'est des écrans OLED, si tu mets un fond noir en haut, sur les petits ergots sur les côtés, si tu veux, bah tu le caches, en fait, tu le vois pas, puisque les caméras se voient pas beaucoup, ça ne sert à rien. Mais du coup, on est quand même sur deux produits qui n'ont pas de surcouche, qui vont avoir au moins un support de 2 ans, on espère, merci Google, sur des téléphones à 1000 balles, ça serait quand même pas mal. Et si vous voulez vraiment, entre guillemets, le top du top, c'est ce qu'il faut viser. L'appareil photo a l'air toujours aussi impressionnant, avec des modules software qui permettent de faire des trucs qui techniquement sur l'appareil photo serait impossible sans le traitement numérique. Du coup, il va y avoir une énorme baston entre les 10S, 10S Max, whatever, de chez Apple. Les téléphones Samsung, j'ai vu que Samsung sortait un téléphone avec 4 capteurs à l'arrière. Wow. Ok, bientôt la face arrière avec que des capteurs de photos. Et donc pendant ce temps-là, Google arrive avec son capteur unique et fait des photos de ouf avec gestion du flou en fonction de là où tu mets le point central sur ton écran. Alors que en fait, ils ont pris plein de photos et tout est géré numériquement maintenant. C'est assez impressionnant. Donc je vais vous linker tout ça. Vous allez voir avec vos petits yeux parce que sur podcast pour me voir les trucs sur les de photos, c'est pas très pratique. Hein, je vous le cache pas. Et derrière, donc nous avons des annonces de différents devices de chez nos amis Google qui sont d'un intérêt, on va dire, moindre, tu vois, pour être hyper poli. Le truc le plus intéressant qu'ils ont sorti, c'est en fait une espèce de recharge sans fil qui va avec le Pixel. C'est un stand, hein, tout bêtement, pour poser votre téléphone, qui est ultra bien fait, puisque déjà, c'est c'est pas du sans fil, hein, c'est juste de la recharge par induction, évidemment, mais c'est surtout que ça permet d'avoir le téléphone qui se met en mode smart screen, enceinte connectée intelligente, c'est-à-dire qu'il attend vos instructions, OK Google, il sert de réveil matin, voilà, d'un coup votre téléphone en fait quand il est en recharge continue d'être utile, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, donc ils ont sorti un truc qui s'appelle le Google Home Hub, qui est un écran connecté intelligent, tu vois un peu les trucs Alexa et compagnie. Mm-hmm. Bon, c'est la même chose mais avec un écran, donc c'est plus joli, tu te dis que ça va servir à quelque chose, sauf que la qualité du tout est très 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 moyenne. Et là, les mecs se sont dit à 150 balles, t'en attends pas des miracles, mais l'enceinte est vraiment pourrie, donc si tu veux écouter de la musique, c'est vraiment pas magique. Donc celui-là, ne vous précipitez pas. Ça coûte pas très cher, en même temps, vous perdez pas beaucoup d'argent si vous voulez essayer, mais c'est pas magique, on attendait beaucoup mieux. Il y a la Pixel Slate aussi qui a été annoncée. Alors la Pixel Slate, c'est un truc assez rigolo, puisque les tablettes Android étant officiellement décédées, vu qu'Android n'a jamais fait vraiment d'efforts pour gérer les écrans de la taille d'une tablette avec des applications dédiées, etc. Le marché de l'applicatif Android ne fait pas rêver. On est loin, loin, loin de ce qu'on peut trouver sur iOS et donc sur iPad. Donc du coup, ils ont fait « Ok, on arrête et on va faire avec cette nouvelle tablette un truc sous Chrome OS ». Donc c'est une tablette sous Chrome OS avec pas mal de matos, un écran haut def qui est vraiment pas mal. La problématique, encore une fois, ça va être les applicatifs, mais comme on est sur Chrome OS, il y a quand même beaucoup plus de choses pour travailler et faire du boulot sérieux. Est-ce que ça va fonctionner? Je vous avouerai que moi, personnellement, je trouve pas ça hyper sexy. Là, ils essayent d'aller concurrencer d'un côté les iPad Pro et de l'autre côté les tablettes de nos amis de chez Microsoft, hein, qui s'appellent les, tu vas m'aider,
Surface. Hein.
Les Surface, merci. Tu vois, c'est compliqué quand même. Les Surfaces, et donc du coup, avec les Surfaces ont vraiment un gros marché. Ça, les gens qui les utilisent adorent généralement le produit. Les gens qui sont sur iPad Pro adorent le produit, et il y a personne qui adore les tablettes Android à part le fait qu'elles sont pas chères et que pour mater du Netflix vite fait avec les gosses, c'est pratique, tu vois. Donc, je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. On est sur des prix qui sont relativement abordables puisque ça commence à 600 $. J'ai pas regardé le prix en euros. Vous m'excuserez. Le clavier coûte 200 $ et le stylet coûte 100 balles. Donc le package, c'est quand même pas donné. Et vraiment, regardez en termes d'applicatif s'il y a des trucs qui sont intéressants pour vous, parce que pour l'instant, j'avoue que je suis assez dubitatif. Et donc c'est pour ça que j'avais écrit Pixel Sheet. Il y a aussi des nouveaux Chromecast dont j'ai rien à foutre, parce que c'est toujours des trucs avec la prise HDMI branchée sur le puck, là, tu vois. Je comprends pas pourquoi ils gardent ce form factor qui est pas pratique du tout pour personne, puisque ça veut dire que votre truc va pendouiller appuyer derrière votre télé au mieux, donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un truc un peu plus correct. Alors ça coûte que dalle, hein, mais si vous voulez une vraie box télé correcte aujourd'hui, bah continuez d'acheter la Shield de Nvidia qui reste le meilleur produit du genre, et même tout produit confondu, c'est vraiment un des meilleurs du marché, il y a vraiment pas photo, et Nvidia continue de faire des mises à jour, ce qui est pour un produit Android est incroyable. Donc voilà, ça fait le tour de toutes les annonces Google, mais je vous avoue que les Pixel 3 et 3 XL risquent d'aller faire de l'œil même chez les fans d'iOS, mais pour le reste, on est quand même, c'est quand même pas
sexy.
Ouais. Non, c'est pas très très sexy.
Alors on est déjà un peu long, mais comme tu l'avais promis en début d'émission et que moi j'aime bien t'entendre râler, on va quand même se faire en vitesse ce petit rant.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça, c'est de la merde.
Nous allons parler de la vente en ligne, mon ami, et du magnifique combo packaging de merde. Livraison de merde.
Matériel net, c'est pour toi.
Non, matériel.net, c'est même pas les pires, parce que le truc qui m'a vraiment... où je me suis dit, mais je ne comprends pas votre logique, messieurs, dames, dans la vente en ligne. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de mettre dans les paquets ou pas? A priori, non. Donc, voilà, mon histoire commence quand mon AS est mort, donc ça m'a mis de bonne humeur. J'ai perdu 18 teraoctets de données, j'ai redécouvert à quel point Netflix, finalement, c'était pas si mal, puisque mon vieux Plex n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Mais du coup, j'achète des nouveaux disques durs. Et qui dit disque dur, dit produit fragile à envoyer. Et là, j'ai reçu mon premier disque dur par Amazon, tu vois, genre, allez, j'en ai besoin ce soir, faites-moi plaisir, les mecs, dans une enveloppe à bulles. Bah ouais, pas de carton, rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'enveloppe à bulles un carton qui protège le disque dur. Dans le disque dur, avec son petit truc antistatique, dans l'enveloppe à bulles, avec un petit coup de papier bulle autour du disque dur, mais déjà tout écrasé, et avec des traces sur le papier bulle, pour vous dire à quel point le truc s'est fait massacrer la tronche. Et j'avais des traces sur l'enveloppe à bulles qui a dû se retrouver coincée entre trois cartons de 4 kilos. Autant vous dire que le disque dur est arrivé complètement mort, évidemment, genre pas détectable, même, enfin sur rien en fait, le truc qui fait genre non, ben moi je suis mort en arrivant. Et là tu te dis vraiment, c'est pas cool, donc j'en rachète un. Celui-là, t'appuies sur le bouton retour à l'envoyeur par Amazon, c'est assez pratique, très bien, merci, au revoir. Perte de temps, pas perdre d'argent parce qu'ils payent leur tour, mais alors si vous êtes fan d'écologie, etc., évidemment, bah là, vous vous dites produit neuf qui arrive pété, dépense d'énergie, transport pour rien...
Ouais, puis ça énerve quand même un peu.
Ah non, mais ça énerve, mais genre économiquement, écologiquement, et tout, c'est de la merde de A à Z dans l'histoire. Mais du coup, ça m'est arrivé trois fois cette semaine, avec trois trucs différents, et sur les quatre disques durs que j'ai commandés, il y en a un qui est arrivé vivant, mais dans un paquet où l'autre était mort, donc autant vous dire qu'ils vont tous repartir, et je ne comprends pas. Et on est quand même sur des trucs où j'ai tout eu cette semaine. J'ai eu le colis livré avec fausse signature, alors que le mec ne l'a jamais remis en main propre. Ça veut dire que je peux mentir et dire que je n'ai jamais reçu le truc et gueuler pour en avoir deux gratuits. Mais bon, comme il marchait pas, je les ai renvoyés quand il arrive. Et j'ai vraiment tout eu. Donc là, je pense qu'on est au point où, de toute façon, tout le monde le sait, hein, parce que je vois sur Twitter tous les jours des gens en pleurs sur des problèmes de livraison. Mais le marché de la livraison a complètement explosé en vol. Vous avez tous lu les papiers qui expliquent à quel point tout est sous-traité maintenant. Du coup, c'est de la faute de personne.
Oui, même chez les ténors, hein, même UPS et compagnie, c'est en baisse de qualité depuis des années. C'est incroyable.
Chronopost, il n'y a plus un camion Chronopost, c'est que des petites boîtes qui se font exploiter, et c'est la faute du mec, mais qui est déjà employé, voire auto-entrepreneur, pour livrer les paquets, qui se fait virer comme un malpropre. Amazon, on a découvert que les mecs en livraison, ils virent pas les gens, ils retirent le badge. Donc le mec n'a plus accès à l'entrepôt. Donc de fait, ils n'ont même pas besoin de virer la compagnie. La compagnie n'a pas accès à l'entrepôt, donc elle ferme en fait automatiquement. C'est magique. Donc voilà, je trouve qu'on vit dans un monde merveilleux où on peut acheter ses brosses à dents et se les faire livrer à 22h comme moi aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'en gros, on exploite le système à mort, et dans des conditions, si vous avez besoin d'un service de qualité, bah qui n'existe plus en fait. Ou alors, faut vraiment avoir du bol. C'est-à-dire que là, dans le cas de matériel.net, c'est-à-dire que les mecs ont fait l'effort de refaire un packaging avec un suremballage qui apparemment n'est pas la norme en fait actuellement. Alors que bordel de merde, quand vous livrez des disques durs, les gars, mais mettez de la mousse autour, quoi. C'est la base. Oui, mais ça faisait pas gling-gling, le paquet, il est solide. Bah non, parce que le moindre choc, ça explose le truc à l'intérieur, même si les têtes sont parquées, ça reste un disque dur mécanique. Tout le monde n'achète pas des SSD pour mettre dans ses NAS aujourd'hui.
On va tous retourner à Montgalet, voilà comment ça va se finir.
Bah ouais, exactement, mais je veux pas savoir comment ils ont récupéré leur disque dur chez Montgalet, tu vois. Donc, le problème est déplacé, mais il n'est pas réglé. We'll be right back.
Et c'est la fin de ce 62e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine dès 8h pour un nouvel épisode. Et puis on va essayer de se détendre un peu ce week-end du coup.
Bah oui, je vais surtout essayer de récupérer un petit pixel pour le tester et vous et en parler en détail. Oh, les disques durs, c'est mort, je les aurai plus jamais. Mais bon voilà, j'ai bien conscience que mon petit passage sur le pixel était un petit peu... Va vous laisser sur votre faim. Moi aussi, j'ai envie de parler des nouveautés d'Android. Mais du coup, comme je l'ai pas sous la main, j'ai préféré fermer ma gueule.
Et bon, donc, on parlera quand tu l'auras.
Exactement.
Allez, bon week-end.
Ciao, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.